France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Ce carnet est consacré aujourd'hui à un nouveau-né, la Maison Cocagne. Depuis la création du premier jardin Cocagne, on en a déjà parlé, hein, en 1991, des dizaines de lieux de production maraîchère ont vu le jour partout en France. Non seulement ils produisent des légumes labellisés agriculture biologique, ils les distribuent aux milliers d'adhérents consommateurs, mais ils ont aussi pour vocation d'être des ateliers et chantiers d'insertion. C'est ainsi que le réseau Cocagne s'inscrit dans des principes très actuels de transition écologique et de transition sociale autour d'une alimentation saine et accessible à tous. Depuis septembre, une maison Cocagne s'est installée là où on ne l'attendait pas, à savoir au cœur du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay qui comprend 65 000 étudiants et 15 000 chercheurs. Pourquoi cette implantation à cet endroit? Quelle utilité va avoir cette maison Cocagne? Des réponses avec notre invité.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Dominique S, bonjour.
Bonjour.
Dominique, vous êtes le président de la maison Cocagne. Alors, c'est tout récent, on va expliquer. Lieu innovant, entreprise d'insertion, inauguré en septembre dernier, à Voilan. En fait, on est sur le plateau de Saclay.
C'est ça, oui. Alors, au cœur de la Silicon Valley, là où l'avenir, l'excellence de la France se dessine tout doucement, avec énormément de chercheurs, des étudiants déjà installés, et de grandes entreprises qui s'installent, voilà, tout autour de nous.
C'est quand même inédit, ça, Dominique, le grand réseau Cocagne d'économie sociale et solidaire viennent s'implanter et s'insérer au milieu de ce pôle scientifique et technologique à renommée mondiale.
Oui, alors, en même temps...
Fait sourire.
Oui, parce que quand on a commencé à s'installer, on ne voyait pas quelle propension tout cela allait prendre. Mais très concrètement, le réseau Cocagne, à partir de son expérience, a voulu lancer l'idée de lieu havre, de lieu où on peut se reposer des questions essentielles par rapport, effectivement, à cette économie du 21e siècle, qu'on cherche à construire et qui soit plus résiliente, plus en capacité de donner des perspectives à des personnes qui sont peu ou pas qualifiées, d'une part, et d'autre part, d'envisager la transition écologique avec ces personnes. Notre conviction aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le travail reste quelque chose qui soit émancipateur, qui soit offert à tous, à l'instar de la démarche qui est proposée, par exemple, par nos confrères de Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, et que cette force de travail, parce que le travail est émancipateur, permette à un moment donné à des personnes de se rendre utiles et finalement de pouvoir construire l'avenir, c'est-à-dire cette transition écologique et sociale de l'économie. Donc quelque part d'être à côté de la Silicon Valley et de pouvoir permettre effectivement des liaisons avec ceux dont on pense aussi qui dessinent l'avenir n'est pas forcément quelque chose d'inconclu. Mmh. Mais cela dit, pour tout vous avouer, on n'a pas tout à fait exprès. Donc
non, mais nourrir par exemple des chercheurs, des ingénieurs, des étudiants, des chefs d'entreprise grâce au jardin de Cocagne lié à l'insertion, lié à une production locale en circuit court, je trouve ça très digne. Il faut le souligner. Alors, la maison Cocagne, c'est quoi? La tête de pont, c'est l'épicentre du réseau des jardins?
Alors, aujourd'hui, ça fait 30 ans que le premier jardin a été créé.
Jean-Guy Henkel.
Voilà, par Jean-Guy Henkel, qui a été le fondateur de ce réseau, après avoir créé ce premier jardin à Chalzol, donc dans la région de Besançon. Et par la force des choses, notre travail étant de remettre en selle les chômeurs dans une économie dont les exigences sont de plus en plus intimidantes, est une affaire complexe, mais un pari qu'on arrive toujours aujourd'hui à tenir. Ça nous a donné une certaine expérience de la manière dont on met les gens au travail. Tous les gens au travail. Ça nous donne une expérience aussi de la justice sociale à exercer autour des questions alimentaires. Cela nous donne aussi, enfin, une expérience de comment remettre les forces de travail dans une relation retrouvée avec la nature que nous appelons tous de nos vœux aujourd'hui. C'est porté par l'évidence.
Bien sûr.
Tout ça, il faut l'apprendre, le transmettre. Cette expérience, on pense effectivement qu'on a des choses à échanger avec des acteurs qui sont mobilisés par ce même projet. Ces acteurs, depuis toujours, ce sont les collectivités publiques, nos confrères de l'économie solidaire, mais aussi les entreprises. Donc finalement, au bout du compte, c'est pas plus mal qu'on soit près des entreprises.
Ah mais complètement.
Et l'idée, c'est d'apprendre ensemble à construire une économie qui puisse effectivement satisfaire tout le monde.
J'appelle ça de l'intelligence collective. Mais dites-nous, Dominique, le compteur des jardins est resté bloqué? On dit 120 jardins de cocagne en France aujourd'hui?
C'est ça. Bon, bloqué depuis... On a commencé avec un jardin.
Oui. Hein,
donc, en l'espace de 30 ans, c'est un peu plus de jardin quand même aujourd'hui. Bon, alors la réalité, c'est que nous sommes aussi dépendants de la volonté des pouvoirs publics d'ouvrir ce qu'on appelle des ateliers d'insertion qui permettent effectivement de lancer ces dynamiques de jardin. On espère, avec les nouvelles dispositions du gouvernement, pouvoir effectivement relancer ces jardins. Mais en même temps, il n'est pas forcément plus mal de réfléchir aussi à la manière dont ces jardins existants investissent aussi d'autres secteurs d'activité en faveur de la transition alimentaire. Par exemple, à partir des jardins, nous avons construit des pôles de transformation alimentaire. Nous sommes à la tête souvent de dynamiques de filières territoriales bio, locales et solidaires. Et enfin, nous sommes aussi très présents avec d'autres acteurs comme Caritas, Emmaüs, sur la volonté aussi de construire une justice sociale d'accès à une alimentation durable pour tous. Et nos 100 jardins, finalement, sont... Bon, alors on serait pas contre d'en avoir beaucoup plus, hein, mais en même temps, je pense que c'est aussi une surface suffisante pour développer des projets qui soient lisibles. Il faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui, on est établi sur 500 hectares de surface agricole utile. Nous nourrissons 100 000 bouches, si j'ose dire.
Vous distribuez 25 000 paniers
voilà,
par semaine.
Une petite trentaine de milliers maintenant.
Oui, là, vous débloquez le compteur.
Voilà, oui, donc ça se développe bien. Et puis, il y a aussi une opération qui s'appelle les paniers solidaires, qui permet à un moment donné de pouvoir bénéficier à moindre coût d'une offre de produits bio, local et solidaire, dans le même temps qu'on bénéficie d'un accompagnement alimentaire, c'est-à-dire d'un apprentissage pour cuisiner équilibré, cuisiner sain.
Dominique Hesse est notre invité aujourd'hui parce qu'il préside une maison géniale. Je dis géniale parce qu'on l'aime beaucoup depuis 30 ans que les jardins de cocagne existent. Aujourd'hui, c'est un lieu de formation, c'est un lieu de production. C'est un véritable laboratoire où on recrée des légumes, on recrée des variétés, on relance toute une production et surtout, donc, on forme les jardiniers qui vont encadrer nos jardiniers en insertion dans les jardins sur le plateau de Saclay. Donc, c'est une école aussi, la maison cocagne.
Oui, c'est une école sur les métiers qu'on maîtrise, mais c'est dans le même temps une invitation avec les intellectuels, les gens qui cherchent des issues aujourd'hui, les entreprises, les collectivités, à s'approprier effectivement ces nouveaux modèles économiques qui nous sera nécessaire de déployer maintenant rapidement à cause de ces enjeux du 21e siècle qui sont très centrés sur les questions écologiques.
Et vous mettez au point donc pour diversifier les variétés de légumes par exemple?
Alors, ça a toujours été de tradition pour un jardin de cocagne, de sorte que les paniers soient pas trop barbant pour les abonnés consommateurs, ce qu'on appelle les consommateurs chez nous, de cultiver une grande variété sur chaque jardin. Pour accentuer cette variété, nous avons aussi créé des associativités avec les producteurs confrères en agriculture biologique depuis déjà un certain temps, ce qui nous permet de pouvoir tenir le challenge à la fois des abonnements paniers, mais aussi d'une offre auprès de la restauration collective, même si le procédé qui fait qu'à un moment donné, on arrive à ce que les légumes arrivent dans l'assiette des petits piou-piou, et pas quand même si évidente. Il y a beaucoup de points critiques effectivement à traiter, mais nous restons quand même mobilisés sur cette question, qui est aussi un enjeu de justice sociale. Au fond, quand on va dans une école ou un collège, et que tous les enfants peuvent accéder à une alimentation saine, est un enjeu social important également pour nous.
Donc la transition écologique et sociale au cœur de la Silicon Valley française, comme vous le disiez, Dominique, vous avez gagné un peu la timbale, parce que c'est quand même inédit ce dont vous bénéficiez aujourd'hui, c'est un site remarquable.
Alors tout est d'avenir et en plus nos ambitions ne s'arrêtent pas là. L'idée est de créer des lieux havres, ces lieux où on vient se reposer les questions, faire l'apprentissage d'autres pratiques. On souhaite également le développer sur d'autres territoires de France, notamment dans les pôles territoriaux de coopération économique que nous sommes amenés parfois nous-mêmes à animer. On est un peu cette stratégie, si j'ose dire, des abbayes, vous savez, comme dans le temps, les abbayes pour faire face aux invasions barbares et à toute forme d'adversité, passer des alliances entre elles. locales se soutenaient les unes et les autres, dans le même temps qu'elles bénéficiaient aussi du soutien des pouvoirs publics locaux. Eh bien, nous essayons quelque part, dans des temps qui ne sont pas forcément toujours faciles, même si par certains côtés, nos entreprises sont reconnues aujourd'hui pour leur travail et soutenues comme il le faut. Il n'en reste pas moins que ça reste toujours difficile d'entreprendre en économie solidaire dans ce pays et que cette solidarité aujourd'hui est nécessaire. Et le fait d'avoir des lieux où nous pouvons agréger d'autres soutiens, les soutiens de la population locale au travers de tiers-lieux, parce que souvent dans les lieux havres, on décline aussi cette question de tiers-lieux, tiers-lieux culinaires, tiers-lieux alimentaires, la commensalité comme un moyen de pouvoir nous rassembler. Eh bien, avec les habitants du plateau de Saclay, et d'ailleurs, hein, puisque nous sommes maintenant sur tout le territoire français depuis déjà plus de 10 ans, avec les entreprises, avec les collectivités, nous croyons possible d'envisager des alternatives à une économie qui s'est beaucoup industrialisée et qui ne peut plus tenir aujourd'hui son pari qui était la réduction des coûts unitaires de production pour que ce soit accessible à tous, alors que les ressources naturelles sont de moins en moins disponibles pour tenir ce pari de réduction des coûts unitaires.
Une dernière chose, Dominique, c'est des oreilles qui sont tendues, j'en suis certain, quand on a parlé de la formation des encadrants maraîchers. Qui peut candidater? Quel profil? Comment fait-on?
Alors, je ne sais pas s'il faut avoir la main verte, mais il faut quand même avoir le goût. La terre est basse, hein, faut avoir le sens de la nature et puis le sens du temps. Pour faire un bon encadrant technique, un bon maraîcher, il faut 4, 5, 6 ans parfois. Et donc, déjà, ce métier s'adresse surtout à des gens qui ont envie quand même de faire une carrière d'au moins 10 ans dans ce domaine. Bon, néanmoins, ces formations sont accessibles aujourd'hui au plus grand nombre. Et il faut savoir que c'est un métier en tension chez nous. Alors certes, nous représentons que 100 entités, 200 ou 300 postes d'encadrants sur toute la France. Mais la réalité, c'est que cette compétence-là est assez rare et elle ne se trouve pas sous les pas d'un cheval. C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui,
il faut à la fois avoir une approche sociale des gens, avoir le goût des autres, le goût d'aider des personnes en difficulté de s'en sortir, avoir la patience persévérante de les former, de les coacher, de leur répéter éventuellement des consignes, parce que eux-mêmes, nos jardiniers ne sont pas forcément habitués à la pratique du jardinage, et ensuite avoir des compétences effectivement botaniques, des compétences agricoles qui soient avérées.
Voilà un territoire d'excellence solidaire, c'est bien de le souligner, ça. maisondecocagne.fr pour l'adresse, si vous voulez rejoindre ou soutenir le réseau des jardins, réseaucocagne.asso.fr. Merci Dominique.
Merci à vous.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand sur France Inter.
D'un côté, les carnets de campagne, de l'autre, des carnets d'alerte. C'est une collection d'ouvrages lancée par Juliette Duquesne, journaliste, et Pierre Rabhi, figure tutélaire de l'agroécologie. Le cinquième volume vient de paraître, il a pour titre « Vivre mieux sans croissance ». Il s'insère parfaitement dans la logique défendue depuis 28 ans d'ailleurs par les jardins de Cocagne. Ce livre reprend les termes chers à notre jardinier de l'humain, dont la sobriété heureuse contre une croissance qui est synonyme d'avidité programmée. Si la formule prête à faire sourire encore les abonnés du commerce mondial en attente de profit, elle est confortée ici par une enquête sérieuse menée par notre consoeur et par les multiples exemples d'observateurs de notre société, comme la sociologue Dominique Méda ou le philosophe Patrick Vivray, pour ne citer que ces deux derniers, s'accordent pour mettre en regard le terme de croissance avec la Seconde Guerre mondiale, moins pour l'effort de reconstruction que le conflit avait exigé, que pour l'idéal de productivité qui l'a accompagné jusqu'à son application dans l'horreur de la solution finale. Production industrielle et destruction à échelle industrielle sont indéfectiblement liées. C'est vers des solutions que s'oriente la suite du livre, telles que l'expérience des Coravi, montage habitant participatif, on en a parlé aussi à Dieulefit dans la Drôme, ou Léa Nature, dont le propriétaire, avec ses 1400 salariés, prévoit de redonner le capital à ses salariés une fois la retraite arrivée. Les carnets d'alerte sont édités aux presses du Châtelet. Le site, c'est carnetsdalerte.fr. Merci à Nuro qui réalise les carnets, Joël Levert qui leur apporte du contenu, et aujourd'hui à Fabrice Desmas qui leur a donné du volume et qui a une fin de loup. Bon appétit Fabrice, Nicolas Stouff, l'assisté de Yann Pairet, le jeu des 1000 euros spécial Noël.